rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte le moment qui est à l'origine de la chanson « The Blood » de The Cure. Été 1984, Londres. Je n'ai jamais rencontré Salvador Allende. Pourtant, son nom a traversé mon adolescence comme une rumeur lointaine, un écho des bouleversements d'un continent que je n'avais jamais foulé. Allende, ce médecin devenu président, cet homme à lunettes rondes qui rêvait d'un Chili plus juste, élu démocratiquement en 1970. On le décrivait comme un socialiste humaniste, persuadé qu'on pouvait transformer un pays sans fusil, avec la force des urnes et la dignité des réformes. Mais les images qui me sont parvenues en noir et blanc n'avaient rien d'un rêve. Elle montrait des chars avançant dans les rues de Santiago du Chili. Des corps allongés sur le pavé. Un palais présidentiel en flammes. Le 11 septembre 1973, encerclé par l'armée de Pinochet, Salvador Allende prononça son ultime discours à la radio. La voix ferme, malgré le chaos, avant de se donner la mort dans son bureau de la Moneda. Ce jour-là, un pays entier bascula dans la peur et la répression. Je vivais à Crawley, dans le sud de l'Angleterre. J'avais 14 ans. Je ne comprenais pas encore la complexité des alliances internationales ni les logiques de la guerre froide. Je voyais bien qu'au-delà des slogans, c'était un homme, une famille, une mémoire qu'on avait brisée. Et ces images d'un président assiégé refusant de fuir sont restées gravées dans mon esprit comme une cicatrice. Des années plus tard, c'est par une voie différente que cette histoire est revenue à moi. Celle d'Isabelle Allende, nièce du président déchu. Elle avait fui le Chili après le coup d'État, trouvant refuge au Venezuela. Là-bas, en exil, elle entreprit d'écrire pour conjurer ses fantômes. « La maison aux esprits », publiée en 1982, est née de cette nécessité. Je me souviens de ma première lecture. C'était pas un livre comme les autres. Ce n'était pas une chronique historique ni un simple roman familial. C'était une fresque traversée de passions, de destins brisés et de spectres. Les morts continuaient d'habiter les vivants. Les maisons retenaient les cris, les songes annonçaient les drames. Isabelle Allende écrivait comme si le passé ne pouvait se transmettre qu'en passant par le fantastique, comme si le réel, trop cruel, avait besoin de magie pour être supporté. C'est ce réalisme magique, venu d'Amérique latine, qui m'a bouleversé. J'avais grandi entouré de châteaux gothiques dessinés dans mes carnets, de lectures d'Edgar Allan Poe et de films d'horreur britanniques passés en boucle à la télévision. J'adorais les atmosphères crépusculaires. Les portes qui grincent, les corridors peuplés de spectres. Mais dans le roman d'Isabelle Allende, je découvrais un autre gothique, incandescent, enraciné dans les terres ibériques et latino-américaines. Ici, les fantômes n'étaient pas seulement des figures de fiction. Ils étaient les victimes d'un pays martyrisé, les disparus sous la dictature, les amours fauchés par la violence politique. Chaque apparition spectrale était un rappel obstiné du réel. Là où nos manoirs anglais enfermaient des malédictions séculaires, les demeures chiliennes enfermaient la mémoire brûlante d'un peuple. Cette révélation m'a sidéré. Je me suis surpris à voir des ponts entre deux imaginaires que je croyais éloignés. le gothique brumeux de mon enfance anglaise et le réalisme magique latino-américain. Tous deux partageaient une obsession, montrer que les morts ne cessent jamais de nous accompagner. J'imaginais cette maison décrite par Isabel Allende avec ses murs imprégnés de voix et de souvenirs, et je la voyais dialoguer avec les châteaux en ruine de mes rêves. Les esprits, qu'ils soient chiliens ou anglais, venaient dire la même chose. On ne peut pas effacer le passé, ni les blessures, ni le sang versé. Et moi, musicien anglais des années 1980, je cherchais comment traduire cela en son. Pas un pamphlet politique, pas une fresque romanesque, mais une chanson capable de porter ses influences entremêlées. L'histoire d'un président tombé, la voix d'une romancière en exil, et mes propres obsessions gothiques, nourries de cinéma et de littérature. C'est à ce croisement-là qu'est né, bien plus tard, un morceau étrange, inattendu dans le répertoire de The Cure. Une chanson où moi, Robert Smith, j'ai tenté de faire résonner cette collision des mondes. Ce passé, imbibé de passion et de fantômes. La lecture du roman « La maison aux esprits » d'Isabel Allende est ce moment à l'origine de l'écriture de The Blood, paru en août 1985 sur le sixième album de The Cure, « The Head and the Door ». À première écoute, The Blood intrigue. Ni basse new wave, ni nappe de synthé glacée, ni refrain pop, comme ailleurs sur l'album. Robert Smith choisit ici l'intime et l'étrange. La chanson parle d'héritage, de mémoire, de douleur. Le texte médite sur ce que le temps emporte. Dis-moi qui n'aime pas, ce qui ne peut jamais revenir, tu ne peux jamais oublier ce que tu ressentais. Dès les premiers vers, Smith nous confronte à une nostalgie universelle. Qu'on parle d'une personne, d'un âge ou d'un pays, ce qui est perdu continue de peser sur nos vies. Il ne déroule pas un récit linéaire, il assemble des visions fortes, presque arrachées à un rêve ou un roman gothique. Une maison pleine de voix, des souvenirs étouffés, un fil de sang qui relie les générations. L'irréversible plane sur chaque image. L'amour, la beauté ou la jeunesse s'effacent, mais leur disparition poursuit ce qui reste. L'illusion est profonde, c'est aussi profond que la nuit. La mémoire devient une prison. Même si les choses s'effacent, leur empreinte persiste, comme une blessure. Ce qui nous hante est parfois plus fort que le réel. Je suis paralysé par le sang du Christ. Même si ma vision se trouble, je ne peux m'arrêter. C'est sans doute le passage le plus marquant. Smith ne l'emploie pas religieusement au sens traditionnel. Le sang du Christ devient métaphore d'une expérience écrasante, à la fois mystique et destructrice. Une passion qui fige, qui aveugle, qui empêche d'avancer. La dernière partie du morceau évoque la dissolution de la mémoire. Quand la lumière disparaît, on ne sait plus si ce qui a été vécu était réel ou illusion. C'est le doute existentiel ultime, le souvenir d'un fantôme ou d'une passion vécue, comme dans les récits d'Isabel Allende où le quotidien est sans cesse envahi par des forces invisibles. La chanson brouille les frontières entre passé et présent, rêve et réalité. Musicalement, The Blood se distingue dans la discographie de The Cure. La guitare acoustique de Robert Smith adopte un style flamenco nerveux, claquant, inhabituel, dans le rock anglais des années 1980. Ce choix d'arrangement crée un climat méditerranéen qui évoque l'Espagne, le Portugal, l'Amérique latine. La voix de Smith est volontairement fragile, presque parlée, avant de se briser dans les refrains. L'absence de batterie lourde ou de basse marquée crée une atmosphère suspendue, hypnotique. On a l'impression d'assister à une confession, à une incantation intime, plutôt qu'à une performance rock. Ce dépouillement musical donne à Hard Blood une aura à part. La chanson semble venue d'un autre espace, entre flamenco et gothique, entre ballade et incantation. L'album The Head and the Door marque une étape décisive pour The Cure. Au cœur de celui-ci, The Blood fait figure de curiosité. Le morceau témoigne de la volonté de Smith de s'inspirer de références extra-européennes, ici ibériques et latino-américaines. C'est aussi un hommage indirect à ses lectures, un titre de littérature transformé en chanson. Le morceau est resté discret, mais il représente une des facettes les plus personnelles de Smith, sa capacité à absorber le cinéma, la littérature, politique et à les restituer en musique. En apparence, The Blood n'est qu'une petite chanson acoustique perdue au milieu d'un grand album pop. Mais en la replaçant dans son contexte, le Chili d'Allende, le roman de sa nièce Isabelle, la fascination de Smith pour les atmosphères gothiques ibériques, elle devient bien plus qu'un simple morceau. Elle est un pont entre continents, entre histoires, entre mémoires. The Blood apparaît comme une lamentation voilée, où les images de sang et de crépuscule traduisent à la fois la brûlure des passions intimes et la persistance des blessures laissées par l'histoire.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
Classique 21, le média rock de la RTBF.